Ça fait plusieurs semaines que je n'étais pas là le vendredi soir. Et donc j'ai l'impression que ça fait longtemps que on n'a pas pu discuter et faire un talk. Et beaucoup de choses sont passées depuis ces semaines. J'ai regardé le débat entre François Fillon et Alain Juppé. Après, quelqu'un avait dit c'était un peu le débat entre valeurs actuelles et le Figaro, qui sont deux publications de droite. C'est vrai. Une chose très importante qui m'a frappée, c'était que si on écoutait avec un peu de recul, on entendait que la solution à tout et le problème à tout était économique, était financière, matérielle. Et ça m'avait énervé. Bien que je me suis dit, mais évidemment, si ces hommes-là, ce n'est pas des mauvaises personnes du tout, hein, mais leur vie est consacrée à une façon de voir la société et voir la façon de gouverner les intérêts à défendre et à promouvoir qui sont économiques principalement et financiers. Mais ça prenait vraiment la proportion où à un moment c'était mais très très vaguement la question de, et même ça m'avait un peu énervé, qu'est-ce qu'il faut faire dans nos quartiers. C'est un euphémisme pour on sait quoi, n'est-ce pas? Et c'était pendant une interaction, quelqu'un d'autre a regardé ce débat? C'était venu pendant une interaction sur d'autres choses, je sais pas, et donc ça a duré 15 secondes à peu près l'échange là-dessus, et c'était, il y avait Fillon qui avait dit mais le problème dans nos quartiers, c'est encore une fois, c'est l'emploi, c'est le chômage. Et comme c'est, il avait dit, je ne me souviens pas quoi, mais on a passé à l'autre chose. Comme si le seul problème, c'est que ces gens étaient, qu'ils n'avaient pas d'emploi. C'est vrai que 25% des jeunes dans les, entre guillemets, quartiers sont au chômage, c'est vrai. Mais le problème est beaucoup plus profond et compliqué que juste donner un boulot. Si c'était si simple, pourquoi on n'a pas fait jusqu'à là? Après, je regardais mon énervement. c'est facile d'être énervé aujourd'hui par la politique, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Donc, et donc je regarde beaucoup qu'est-ce que c'est cet énervement. Et et à quoi je suis accrochée, hein, parce que si je suis énervée, c'est que j'ai une idée d'autre, il faudrait faire d'autres choses ou dire d'autres choses, ou, etc. Et donc je regarde beaucoup à quoi je suis, quelles idées j'ai qui m'empêchent de juste être avec ce qui est. Et mais quand je prends ce qu'on appelle un pas en arrière, ce que Dogen avait encouragé tout pratiquant de faire, tout de suite ça élargit le perspectif et ça dégage un peu l'attachement que j'ai pu avoir. Et donc il y a cet aspect que, évidemment, si on se consacre notre vie à quelque chose, c'est comme ça qu'on va le voir, le monde, et c'est les gens avec qui on est associé, ce seront les gens qui se consacrent à ça aussi. Et évidemment, si ces hommes de pouvoir, entre guillemets, se sont surtout concentrés sur les aspects financiers, leur boulot, c'est pas du tout de s'occuper de la spiritualité des gens. C'est pas du tout. Donc évidemment, c'est de ça dont ils vont parler, c'est de ça qu'ils vont essayer de mettre en œuvre, etc. etc. Et, mais si on se concentre sur uniquement l'aspect matériel des choses, on va avoir du mal à s'ouvrir à autre chose. Et la même chose s'applique à, je prends l'exemple aux États-Unis, ma mère qui me raconte que elle est tellement outrée par cette élection et la personne qui est élue, etc. Et qu'elle connaît les gens qui ont voté pour Trump. Et elle me dit, je n'ai plus envie de m'associer avec eux. J'ai plus envie de les inviter chez moi. C'est des vieilles dames avec qui je joue au bridge, des choses comme ça. C'est pas du tout. Je sais pas ce qu'on peut imaginer, mais je vois tout à fait le genre d'activité qu'elle fait. Elle me dit, j'ai pas envie de les inviter chez moi. J'ai presque plus envie de parler avec eux, avec elle. Et j'ai demandé à ma mère, est-ce qu'elle savait pourquoi ces gens ont voté pour Trump. Et elle, tout de suite elle m'a dit Roe versus Wade. Alors Roe versus Wade, pour les Américains, c'est code. Du coup tu sais Roe versus Wade, mais c'est le comment on dit,
l'autorisation de l'IVG,
de l'avortement, voilà. Mais c'était le cas légal qui était amené à la Cour suprême. C'est le nom Roe, c'était une personne, enfin, c'était personne contre une autre personne, Wade. Et c'est le nom du cas légal. Qui a été amené jusqu'au Cour suprême, et le Cour suprême avait dit que oui, c'était, on pouvait faire l'avortement aux États-Unis. Et donc, j'étais très étonnée d'apprendre que, je ne sais pas si c'est toutes ces vieilles dames ou quelqu'un en particulier, ou je ne sais pas, ont voté pour Trump parce qu'elles voulaient enlever Roe versus Wade, qui est le cas pour l'avortement. J'étais très étonnée. Je n'avais jamais entendu ça jusque-là. J'ai entendu plein de choses, pourquoi les gens ont voté pour Trump, mais ça, c'était la première fois. Et puis, quand j'entends d'autres choses, j'ai une cousine dont le mari, ma mère pense à voter pour Trump, mais il ne dit pas, dans la famille on évite de parler, je crois, pour pas créer une vague. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent et il veut que ses impôts soient réduits. Un collègue me raconte que quand il est rentré cet été, ils viennent de Pennsylvanie, dans les coins très ruraux, et il dit quand il était là, il avait vu toutes les affiches Trump, il a compris que quelque chose passait. Et il dit, ces gens-là, pour la plupart, c'est parce que la situation économique dans laquelle ils vivent, c'est très compliqué, ils n'ont plus de boulot, toutes les usines sont fermées, etc., etc. Donc là, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens ont voté pour ça. Et c'est toujours le cas, hein, quand on vote pour quelqu'un, etc. Mais je dis tout ça parce que si on s'ouvre, si on prend un pas en arrière, c'est beaucoup plus difficile de généraliser. Et moi, j'ai dit à ma mère, mais ces femmes qui ont voté pour lui, pour l'avortement, mais elles avaient bien entendu les autres choses qu'il a dit. Les choses misogynes, violentes, qu'il n'a pas payé ses impôts depuis 20 ans, juste sa personne, la façon qu'il est, etc., que pour les vieilles dames dans le sud des États-Unis, j'imagine, elles ne vont pas aimer ça. Et elle me dit, mais elles ont passé outre. C'est pas ça qui est important. Alors, si j'étais inspirée par, j'ai lu un blog de quelqu'un, Yves Marco, qui racontait qu'elle... Elle-même, elle vit dans un coin où probablement il y a des gens qui ont voté pour Trump. Elle ne sait pas, personne n'en parle. Mais qu'elle s'est rendue compte quand elle marchait dans la forêt que son chien était toujours très intéressé par tout ce qui était par terre. Et il courait, il voyait les choses qu'elle ne voyait même pas. Il sentait les choses qu'elle, elle ne sentait même pas. Et elle s'est dit, mais attends, mais cette histoire des gens qui ont voté pour Trump ou qui ont voté pour Clinton, etc., c'est juste ici, c'est là, mais je ne vois pas, je ne prêtais pas attention, je ne prête pas attention, je renifle pas, je regarde pas, je ne prête pas attention à toutes les feuilles, à des gens en différentes situations de vie, différents raisonnements, etc. Elle dit, je n'étais pas à l'écoute. Et donc, elle s'est décidée qu'elle va écouter. Elle va essayer d'écouter. Elle va essayer de voir de quoi il s'agit. Pas uniquement les gens pour voter pour Trump, mais toute la situation. Pour ça, il faut prendre ce pas en arrière. Parce que si on ne fait pas, on est trop attaché à notre position, notre façon de voir, nos habitudes. Et c'est là où ce pas en arrière est très important. J'ai entendu à la radio aujourd'hui que le psychanalyste Toby Nathan, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui est spécialisé dans la ethnothérapie ou ethnopsychanalyse, un truc comme ça. C'est une émission à la radio où c'est moi président. Et chaque jour, ils ont un invité qui dit, s'il était président, qu'est-ce qu'il ferait? Et donc lui, il disait qu'il crée une position qui était, je ne me souviens pas comment il appelait ça, mais quelqu'un pour faire raconter les rêves. Donc, au président. Donc, il y aura quelqu'un à l'Élysée qui, chaque jour, le président raconte ses rêves à cette personne. Et parce que sa position, c'est que Il y a des gens qui disent qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, mais c'est parce qu'ils n'ont pas amené à en parler. Il faut cultiver ça, il faut en parler. Et pour lui, les rêves peuvent nous amener des solutions, peuvent nous amener des réponses à une situation qu'on trouve bloquée ou qu'on ne voit pas. Ce qu'on peut faire, parce que c'est, comment dire en anglais, thinking outside the box. C'est une pensée qui est en dehors de notre façon habituelle de penser. Et que c'est extrêmement difficile de faire normalement, mais c'est très naturel. La nuit, les rêves, l'inconscient fonctionne comme ça. Il pense toujours en dehors. Et donc, il disait que les solutions, les façons de gouverner, les positions, etc., pouvaient être complètement bouleversées si on pouvait accéder à nos rêves d'une façon systématique comme ça. Bon, il y a différents personnages qui sont interviewés chaque jour et c'est toujours des trucs comme ça un peu, mais c'est intéressant quand même. De ce pas en arrière, c'est un peu comme ça. C'est pas s'endormir et rêver, mais c'est de se décrocher de notre façon habituelle de voir les choses et penser aux choses. Principalement comment je vois moi et quelle est ma position, qui suis-je moi, etc. Ce pas en arrière nous aide avec ça. Ou ça peut avoir l'effet de, hier j'étais allée pour ma première rendez-vous avec le Pôle emploi et il fallait que je prenne deux bus parce que c'était dans un banlieue pas très loin de où j'habite, toujours dans le Seine-Saint-Denis, mais comme vous avez peut-être entendu, entre les banlieues c'est extrêmement compliqué les transports publics. Pas juste prendre un métro et aller. Donc il fallait prendre deux bus et ou aller en voiture, mais je ne pouvais pas aller en voiture. À travers ces banlieues qui sont, c'est pas les pires. Hein. Je sais qu'on a l'idée que la Seine-Saint-Denis c'est zone de guerre, mais c'est pas vraiment ça là où je suis, j'habite et les quartiers que je fréquente. C'est juste très ordinaire en fait. Et même peut-être pas très très pauvre. C'est pas riche, mais c'est pas les bidonvilles non plus. Hein. Mais quand même, je faisais ça, je regardais les autres gens dans le bus. Le galère que c'est, parce qu'il y a des embouteillages. Et puis, il faut changer de bus, donc il faut attendre dehors pour que l'autre bus vienne. Il faut marcher de l'arrêt de bus jusqu'au truc de Pôle emploi. Je demandais à quelqu'un s'il savait où c'était Pôle emploi, si je connaissais les quartiers, s'il connaissait le quartier. Mais non. Pas vraiment, et j'ai dit, il me dit, qu'est-ce que vous cherchez? J'ai dit, Pôle emploi. Je dis, ah, je ne sais pas où c'est, mais tout le monde me demande ça tout le temps. Donc, ça doit être le truc typique, les gens descendent du bus 318, là, et puis ils marchent pour Pôle emploi. En fait, c'était juste, c'était pas très loin. Mais quand j'étais dans le bus, à un moment, je me voyais. Pendant un temps, je ne me voyais pas. J'étais complètement là. Et puis à un moment, je me voyais, entre guillemets. Comme si j'avais fait ce pas en arrière. Ou comme si c'était un hélicoptère qui... Il y avait un hélicoptère ce soir. Est-ce que vous avez entendu? Non. C'était pratiquement au-dessus de ma maison. C'était un peu flippant. Pendant 20 minutes, mais très très bas avec des lumières. Chercher quelqu'un, j'imagine, je sais pas. Mais c'était un peu comme ça, comme si on pouvait voir, je pouvais me voir, mais voir toute la situation autrement que d'être moi, je qui vis ça. Et ça m'avait permis de, je crois, d'être plus, comme si j'étais plus perspicace. Je pouvais remarquer la couleur des feuilles sur les arbres. Je pouvais remarquer que les périphériques étaient bouchées. Je pouvais remarquer que, enfin, voir quelqu'un, les jeunes mères qui amenaient leurs enfants à l'école. Quand on était dans un montage, il y avait une école juste là, les gens y allaient. Imaginer ce que c'était la vie de ces gens-là, qui allaient là. Les gens qui montaient dans le bus, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. C'était. C'est comme si je pouvais expérimenter la multitude de phénomènes qui étaient manifestes à cet instant-là, plutôt que juste être. Oh, c'est chiant, je suis dans le bus, je dois aller à Pôle emploi. Il est 9h moins quart, je dois être là à 9h. Ou angoissée, est-ce que je vais rater l'arrêt? Combien il en a encore? Est-ce qu'il y a une déviation? Toutes sortes de choses, etc. Ça change. Ça change de façon qu'on expérimente l'instant. Ce pas en arrière. Ça me permet de, dans la réunion alors pour l'emploi de voir les gens qui étaient là avec moi, de voir, il y avait 7 ou 8 autres personnes avec moi, de les voir, de les écouter, de ne pas être complètement focalisé sur ce qui était mon cas, de voir et entendre le conseiller, enfin l'animateur qui animait la réunion, d'échanger avec lui. Et pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas ne pas faire ce pas en arrière? Pourquoi pas? En même temps, quand on chante le soir, le temps s'écoule sans cesse et l'opportunité se perd. Ne gaspillez pas votre vie. C'est ça dont il s'agit. Parce que le temps passe et on ne fait pas ce pas en arrière. Et l'opportunité de expérimenter le monde tel qu'elle est, quel qu'il est, passe. Et ce n'est pas difficile en fait, ce pas en arrière. C'est vraiment pas difficile. Mais on ne le sait pas. Parce qu'on ne le fait pas. Quand on ne le fait pas, on pense que c'est difficile. Ça nous paraît une montagne. Et on est tellement préoccupé par nos choses, par notre truc, machin, hein, etc., etc., pendant l'assise, on s'embarque dans les pleins plans qu'on va dîner la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai fait hier, cet après-midi, ah là là, oui, un truc avec mon fils, comment je vais payer le billet d'avion, enfin, tout un tas de trucs qu'on est en train de cogiter là. Et ça nous empêche de prendre ce pas en arrière. Et si on peut prendre un pas en arrière, on va voir toute cette occupation qu'on est en train de faire et voir l'absurdité, entre guillemets, de la chose. Et c'est curieux parce que quand je pense à cette expérience hier soir, quand tout se résumait à une solution économique, tout problème était économique et toute solution était économique, financière, l'argent. Même quand il s'agissait de des gens sans emploi ou les écoliers, c'était toujours économique. On réfléchit pas au fait que le temps n'est pas un emploi. Enfin, on ne s'emploie pas à occuper notre temps. C'est nos emplois ne sont pas notre raison d'être. Mais si on résume ça à le chômage étant le problème, regarde le président, est-ce qu'il va se présenter ou non? Il va se présenter si le chômage est baissé. Mais c'est tellement simpliste comme positionnement. J'ai pas une opinion sur lequel s'il devrait se présenter ou non, hein, je m'en fiche plus ou moins. Mais donc à la fois c'est une façon de réduire les choses à trop simple. En même temps, ça les complique énormément. Quand on s'engage dans des positions pour des... Je pense aussi au système électoral américain. Je suis vraiment dans la politique ce soir. Hein, mais ce système était mis en place pour... je ne sais pas, il y a différentes explications. On dit que c'était pour éviter justement les démagogues. C'était aussi parce qu'à l'origine, c'est marrant, hein.
À en pleurer.
Voilà. Et où il y a aussi les. À l'origine, les États étaient très peu peuplés, les colonies originales, les 13 États principaux. Original, très peuplé, et ça prenait des jours et des jours pour que les gens pouvaient venir pour voter et compter, c'était très compliqué. Et les élites ne faisaient pas vraiment confiance à le peuple pour choisir. Et donc ils ont mis un système où, ok, les gens peuvent voter, mais c'est nous les élites qui vont décider qui est président. Et donc, partant d'une position pour protéger ses intérêts, on se retrouve avec un système complètement étrange. Quand tu penses que le candidat qui a gagné 2 millions de votes de plus que l'autre n'est pas le président, et les gens qui ont dans les petits bleds en Michigan ou Wisconsin, leur vote vaut beaucoup plus que quelqu'un qui habite à New York ou à Californie. C'est bizarre quand même, comme système. Mais si on agisse, c'est l'exemple du karma. Si on agisse d'une position moi-je, il y aura des conséquences. Les conséquences qu'on ne peut même pas prévoir. On ne peut pas les voir. C'est trop vaste et interdépendant qu'on ne peut pas les prévoir. Bon, l'élection de Trump va avoir les conséquences aussi qu'on n'a aucune idée ce que c'est, pour le meilleur et le pire. Et même la notion de meilleur et pire, c'est même pas ça. On ne peut pas voir ce qui va se passer. On n'a aucune idée. Et la même chose, c'est la même chose dans nos vies à nous. C'est pour ça qu'on a les préceptes qui nous indiquent, c'est pas des règles, c'est pas des ordres, c'est pas des commandements, c'est des indications de pour vivre pleinement, librement, avec justesse, d'une façon appropriée, en harmonie avec tous les phénomènes, tous les êtres, il y a ces indications qui peuvent nous aider, si on les garde en tête, qui peuvent nous rappeler une façon de faire. Mais pareil, si on se fige, si on se limite à une façon de les interpréter, et on ne les vit pas comme quelque chose d'actif à chaque instant, alors on va avoir des problèmes aussi. Donc je prends un pas en arrière. Et je... Est-ce que vous avez des choses à contribuer? Ou des questions? Ou un autre sujet?
Moi je trouve que ça pose la question de si on ne peut pas prévoir quelque part les conséquences de nos décisions et de nos actions, pose la question de du compte, est-ce qu'il faut même se poser la question, ou est-ce qu'il faut même essayer de faire le bien, ou, et puis qu'est-ce que ça veut dire en fait, essayer de faire le bien?
Oui, c'est un peu. Un peu. Si on a une idée figée de ce que c'est le bien, faire le bien, probablement on va faire ce qui n'est pas bien, disons. Parce que tout est, j'utilise tes mots, hein, c'est pas, je ne dirais pas que c'est une question de bien ou pas bien, mais tout est impermanent, et donc et tout est interconnecté. Donc, on n'a aucune idée ce que c'est les conséquences de le fait que on parle ensemble ce soir. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que c'est les conséquences du fait que j'ai pris le métro à telle ou telle heure plutôt qu'un autre. Peut-être que tu aurais rencontré une vieille amie si j'avais pris le métro 5 minutes plus tôt. Ou peut-être 5 minutes plus tard, le métro aurait tombé en panne et je ne serais pas là. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Ni ce qui sont les conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer de limiter les casses, si vous voulez, en agissant d'une façon appropriée. Donc, selon les circonstances, selon les personnes, le temps, le place, le lieu, la quantité. Je parle autrement ce soir que si c'était des anglophones. Je parle autrement que si j'avais des enfants de 10 ans. Je parle autrement que si il y avait 75 personnes. Je parle ce soir des choses que le fait que j'ai vu ça hier soir, ça a une influence sur ce que je fais aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui. Donc c'est toujours en fonction de ce qui est. Et il n'y a pas une réponse bon ou pas bon dans chaque circonstance. Il n'y en a pas. On aimerait savoir exactement ce qu'il faut faire, mais il n'y en a pas. Il y a juste faire ce qui semble, dans cet instant, approprié pour nous. Il y a des choses que... Il y a des choses que les parents ne disent pas à leurs enfants. C'est approprié, ça. Il y a des choses que... on pensait qu'il y avait des choses qu'en politique aux États-Unis on ne faisait pas. Apparemment, on s'en fiche. Mais il y aura des conséquences de ça. Il y aura des conséquences. Et le fait qu'on était fixé sur ce qui était approprié ou non, et le fait que ce qui était fait n'était peut-être pas approprié. Le fait que le président élu envoie son fils, qui n'a zéro expérience de diplomatie ou relations internationales, discuter avec un émissaire de Poutine sur les Russes en Syrie, il y aura des conséquences de ça. Il va en avoir. On ne sait pas quoi, mais il va en avoir des conséquences. De mon point de vue, ce n'est pas approprié. Visiblement, de la position du président élu, c'est approprié. Mais on ne sait pas.
Mais du coup, est-ce que ça nous invite pas à dire finalement toute idée de approprié ou pas approprié, finalement, ne veut pas dire grand chose.
Non, c'est pas ça qui se passe. Je dirais que c'est le contraire. Que si, parce que j'utilise le mot approprié, mais même ça, c'est peut-être pas approprié. Parce qu'il n'y a pas de mot pour ça. C'est si on est vraiment un avec la situation, on sait, on le sent que c'est approprié ou non. On sait que je sais pas, quelles sont les situations. T'as une situation en tête?
Bah, par exemple, pourquoi pas, il me semblerait a priori pas tellement approprié de voter pour l'extrême droite, par exemple, aux prochaines élections. Mais dans la mesure où je pourrais me dire, je sais pas, dans le fond, je sais pas quelles seront les conséquences à un truc comme ça, mais bah, qu'est-ce qui me. Ben voilà, ça c'est un exemple, tu vois. Finalement, qu'est-ce qui me ferait dire que c'est pas une bonne idée comme j'ai a priori, comme j'en ai l'intuition a priori.
Ben, j'imagine que si tu dis ça, que tu as réfléchi à les positions, les choses qui sont dites, les actions qui sont faites par les gens de l'extrême droite, et en réfléchissant, en regardant la situation, pour toi, ça semble pas que ça va engendrer peut-être plus de mal que de bien, si on reste avec bien ou mal. Je sais pas si on dit ça. Mais on est parfaitement libre de voter Front National. C'est extrêmement libre. Parfaitement libre. Sachant qu'il y a des conséquences de ça. On ne sait pas ce que c'est, mais on peut imaginer si on donne l'autorité à quelqu'un qui va faire ce qui dit ceci ou cela, probablement il y aura des conséquences. Cette personne est focalisée sur ça, donc ils vont faire ça probablement. On peut dire ok, si on ne sait pas ce qui est approprié ou non, bah, on va mettre des drogues dans les boissons des écoliers parce que peut-être c'est approprié. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que c'est. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut droguer les écoliers? C'est pas encore une fois, c'est pas difficile. Si on prend ce pas en arrière, de regarder les situations globalement. Bon, si on prend les élections, si je pense par l'arrière, je regarde la possibilité des gens pour qui je peux voter en France. Il n'y a personne qui corresponde vraiment à ce que je vois quand je prends le pas en arrière. En même temps, il y en a qui, je pense, ou je sens, pouvaient être plus, qui pouvaient aller plus dans la direction de ce que je vois. C'est pas idéal. Mais qui pouvaient avoir plus d'ouverture. J'ai le choix de ne pas voter. De ne pas du tout m'occuper de ça. Regarde, je suis le seul ici qui a regardé ce débat. Je peux vraiment éteindre la télé et ne pas m'occuper de ça. Seulement, il y en a qui vont couper les droits de chômage. Donc je vais être affectée par ça. Il y en a qui vont augmenter les dates de retraite. Je vais être affectée par ça. Il y en a qui vont couper les services médicaux. On va tous être occupés, touchés par ça. On est concernés quand même, parce que c'est un vivre ensemble. Donc je peux ne pas faire. Je peux dire que c'est approprié de couper l'assurance maladie ou pas. On peut avoir les opinions. Mais quand je parle de ce pas en arrière, c'est d'essayer de se libérer des opinions. Et d'agir d'un endroit qui n'est pas opinion, qui est plutôt vécu. De qu'est-ce qu'on, quelle est l'expérience là, de ce qui est. Et de pouvoir lâcher aussi nos idées, nos opinions. Peut-être que j'ai l'idée que, je ne sais pas, que Fillon est meilleur que Copé, ou je ne sais pas, et il faut lâcher l'idée, Copé est mieux. Mais non, je ne sais pas, Juppé, ou je ne sais pas.
J'ai une question connexe. Comment est-ce que, d'un point de vue bouddhiste, de ton point de vue, comment est-ce qu'on devrait défendre ses valeurs, soutenir les principes, les actions qui nous semblent appropriées selon notre vécu, qui résonnent avec nous, tout en restant détachés? Comment est-ce qu'on peut s'engager, rester engagé tout en gardant ce recul, ce pas en arrière?
T'as un exemple?
Oui, je pense aux manifestations aux États-Unis, je pense à ce que je veux ou je peux faire dans les années à venir pour faire en sorte que tout ne parte pas dans un sens qui me semble désastreux. Et quand je commence à penser comme ça, je vois que ça me pousse plus vers un engagement très... très émotionnel, très où je me dis mais ça c'est horrible et ça ce serait beaucoup mieux et si seulement et il faut agir pour et je suis vraiment là dedans, je ne suis pas du tout en recul.
C'est vraiment, ça revient à ce que cette pratique des cercles de parole qu'on fait, c'est-à-dire que La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est parler du cœur et écouter du cœur. Écouter avec ouverture pour entendre ce que l'autre a à dire, et dire ce que nous on a à dire, tout ce qui est dans notre cœur. Et ça, mais vraiment, start where you are, c'est vraiment local. Moi, ça m'avait frappé le soir de l'élection, c'était, mais qu'est-ce qui est exprimé dans par ces millions de gens qui ont voté? Pas du tout comme moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est exprimé dans ça? Parce qu'il y a quelque chose. Donc j'essaie depuis d'écouter, un peu comme Yves racontait, de m'ouvrir à qu'est-ce qui est exprimé là. Et de là, et on peut aussi exprimer ce que nous, on a en nous, ce que nous, on cherche à exprimer. Et c'est important, l'émotion, c'est la colère, la frustration, je ne sais pas, il y avait des gens qui étaient très contents. C'est important, l'émotion. Effectivement, il y a un moment où, comme des vagues, ça tombe et on peut prendre ses parts en arrière et dire, ok, mais qu'est-ce qui vraiment se passe pour moi dans ça? Parce qu'on ne va jamais s'est trouvé dans cette situation parce que personne ne s'écoutait les uns les autres, en fait. C'est comme ça qu'on s'est trouvé dans cette situation. C'était un signe pour moi que je disais, mais je ne connais personne qui a voté pour Trump. Personne. Maintenant, j'entends que ma mère connaît quelqu'un, etc. Mais ça, c'est un signe quand même que on ne s'écoutait pas les uns les autres. Et pas juste cette année-là, cette élection-là. Hein, c'est très profond et très loin. Il ne s'agit pas de laisser tomber nos espoirs, nos exigences. Il s'agit simplement de ne pas y être attaché. Et ouverte aux différentes possibilités. Il y a une forte possibilité que cette élection va inciter un changement radical à gauche aux États-Unis. Ça va amener un changement de politique où c'est beaucoup revenir à ce qui était les origines de gauche aux États-Unis, s'occuper des gens ordinaires, plutôt que c'est devenu une espèce de gauche caviar aux États-Unis, comme en France d'ailleurs. C'est une forte possibilité que ça va complètement renouveler, avec l'inspiration de Bernie Sanders, comme une espèce de boomerang. Je ne sais pas, on ne sait pas. Mais on peut vraiment, ça peut nous inciter à vraiment dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je veux faire pour ça? C'est ce que j'ai dit avec la pratique aussi. Qu'est-ce que vous cherchez dans la pratique et qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour y arriver?
Mais c'est pour aller dans ton sens, est-ce que, je sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais est-ce que peut-être ce que tu veux poser comme question, c'est est-ce que le militantisme est compatible? Quelque chose comme ça, non? Est-ce que tu dirais que le militantisme est compatible dans le sens où le militantisme, on prend des positions et on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, je prends une cause, je défends une cause, j'y vais. Et comment est-ce qu'on intègre ça avec une est-ce qu'on se dit, ok, j'ai bien compris, j'ai vu, etc. Et donc, c'est bien cette cause qu'il faut défendre, il faut y aller, il faut se battre pour ça. Et donc, on prend un point de vue, et en même temps, un point de vue qui part d'un pas de côté.
Exactement. Oui.
Ma question a été un peu plus personnelle. Comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux vivre cette expérience qui pour moi suscite beaucoup d'émotions, de convictions, oui, un désir de militantisme aussi, et de l'autre côté ne pas m'y jeter à un perdu, ne pas me perdre, ne pas perdre cette possibilité de...
Bah, c'est ce que je dis, c'est de regarder peut-être d'une façon donc plus individuelle. Qu'est-ce qui est important pour moi, qui incite cette, qui amène cette émotion et cet attachement? Qu'est-ce que c'est? Je suis attachée à quoi? Pas d'une façon négative, je ne dis pas du tout que c'est négatif cet attachement, mais simplement, mais qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui incite cette forte émotion? Et si on continue de le regarder pour trouver quelle est la base de ça, l'injustice, ou je ne sais pas, une façon égalitaire de voir la société, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Et essayer de faire la même chose avec l'autre, donc. Qu'est-ce qui lui motive? Qu'est-ce qui... parce que... souvent, quand on a l'impression d'avoir un adversaire et on s'assoit avec lui ou elle et tout le monde parle de son cœur, on se retrouve. Il y a quelque chose de commun qu'on trouve. Parce qu'en fait, c'est ce qui est, hein. Il y a quelque chose de partagé qui se manifeste de différentes façons. Et il ne s'agit non plus de dire oh, ces pauvres gens, ils ne sont pas éduqués, ils sont pauvres. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout avoir un air condescendant ou les voir comme autres, parce qu'ils ne sont pas autres. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas autre.
Ce que j'ai entendu dans ta réponse aussi tout à l'heure, c'était que ce serait bien de garder ses convictions, pas comme des convictions auxquelles on adhère à tout prix parce qu'on sait que ça, qu'on a raison et ça c'est la vérité, mais plutôt comme des convictions qu'on renouvelle, vers lesquelles on revient à chaque fois en testant, en se posant la question pourquoi je pense cela, qu'est-ce qui me motive, est-ce que c'est toujours vrai, est-ce que quand je suis confrontée avec ces autres points de vue que j'entends ouvertement, est-ce que les convictions restent les mêmes? Et j'imagine que c'est un peu dans cet état d'esprit aussi que tu nous conseilles d'aborder cette pratique. Pourquoi suis-je là? Est-ce que c'est toujours pour la même raison? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui, en cet instant même?
Et ça change.
Et être... donc c'est, mais c'est con, ça donne un résultat compliqué. Être militant, être avoir des convictions fortes, qui ont de fortes émotions derrière, mais être prête à les lâcher aussi, et à entendre le contraire. Et,
c'est très exigeant. C'est très exigeant. Mais, et, par exemple, il y a des gens qui, parmi notre lignage, qui sont très très actifs en ce moment, dans cette histoire Standing Rock, c'est le... Il y a une... comment on appelle ça en français?
La canalisation de pétrole...
dans la Dakota du Nord.
Oui, où il y a une
réserve
amérindienne.
Et il y a une lettre qui circulait, que beaucoup de maîtres zen ont signé. Il y a des gens qui sont sur place avec des manifestants. Et c'est terrible, hein? Il y avait des violences. Donc ces gens, ils sont militants dans ça. En même temps, je pense qu'ils sont là dans un esprit de peacemaking. de faire la paix. J'ai lu quelques-uns de ces maîtres zen qui écrivaient des lettres, ça circule sur un groupe d'email, et leur conviction, c'est que ils estiment que la terre est précieuse, que puisque tout est interconnecté, la compagnie de pétrole assure que ce sera étanche le, comment on appelle ça, la canalisation, je sais pas, pipeline, ouais. Va être étanche et ça va pas entamer, poser des problèmes pour les sources d'eau, etc. là, mais on sait jamais, et ça peut être plus loin que ça va poser des problèmes, etc. Bon, il y a tout un tas de choses qu'ils expliquent, mais ça revient à cette, la vie est précieuse, la terre est précieuse, et il s'agit de la protéger et d'agir en fonction de ça, tout en respectant les flics en face, les soldats qui font leur boulot, le fait que il y avait une grande discussion parce qu'il y en avait qui disaient oui, mais on peut tous avoir nos centres zen parce que il y a du pétrole, il y a des compagnies qui donnent l'électricité, on est tous bénéficiaires de tout ça, donc comment on peut bénéficier de ça et le contester, etc. Bon, toute une discussion. Et puis après, on décide ce qui est juste pour nous ou non. C'est possible d'être militant, je dirais. Moi, j'estime que je suis une militante zen. Radicale. Radicale. Ça ne m'empêche pas de faire autre chose. Ça ne m'empêche pas de même expérimenter d'autres techniques, d'autres façons de décrire, d'avoir une famille, d'avoir des amis. J'étais pas ici la semaine dernière parce qu'il y avait une fête. J'étais à une fête. Donc, en même temps, je suis militante zen que pour tout inclure.
Moi, je suis très impressionné par par la manière dont il y a une parole de colère et une parole haineuse parfois qui s'est libérée et aux États-Unis et en France et dans plein d'endroits. Et j'ai l'impression que c'est toujours très fragile, qu'il faut pas grand chose pour exciter en fait toutes ces passions haineuses pour les mobiliser. Et je suis aussi très intrigué parce que en même temps, on fait tous l'expérience que c'est quand même plus agréable d'être dans l'empathie, l'affection, l'amour, la tendresse, etc., que d'être dans la colère et la haine. Et qu'il y a certainement un élément de que je vois en France et que je vois aux États-Unis qui est on nous écoute pas, on nous reconnaît pas, on nous entend pas, ça c'est flagrant, et cette volonté de jeter tout par terre et de retourner la table et retourner le système, et c'est très fort. Mais ça c'est parce que ça, c'est quand ça se passe, quand c'est toujours pareil, quand on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Et que ça, il y a quelque chose de très violent qui peut sortir à ce moment-là et qui est évidemment, du point de vue social, très très dangereux, très
Ouais, c'est explosif. Quand même 4 minutes.
Ouais,
hein.
Très explosif. Vraiment. Je suis très impressionné par ça et la responsabilité de chacun pour tenir ça, pour pas que ça explose, justement. Pour aller dans direction là de ce que tu disais, j'ai aussi l'impression que la différence entre les deux situations, c'est aussi dans un cas la colère et le rejet, etc. Le point de vue, il est extrêmement limité. C'est moi contre eux, et eux, c'est de plus en plus large comme groupe, et moi est de plus en plus limité. Et à l'inverse, j'ai l'impression, c'est l'inverse. C'est plus du tout attaché à ma petite personne, quoi. Et c'est ça qui fait que l'expérience change radicalement, et peut-être qu'on ne peut pas passer d'un à l'autre sans que il y a quelque chose qui était entendu sur c'est moi qui parle, mais pour que ça puisse être lâché, il faut que ça puisse être entendu aussi.
Oui, pour chacun et pour les groupes et tout, oui, c'est vrai. Et c'est très cette histoire de ne pas être entendu on sait nous-mêmes en tant qu'individu qu'on veut être entendu, on veut être vu. Évidemment. Et si on n'est pas, ça peut être la colère, les enfants, ils se roulent par terre parce qu'on n'entend pas ce qu'ils veulent. On ne les écoute pas. Ils cassent tout, ils jettent la table, etc. C'est ce qu'on voit là. Et comme société, comme culture, comme monde, où tout le monde est devenu un produit, et tout est réglé comme un marchandise, et les gens qui gèrent tout ça, c'est les gestionnaires, c'est les marchands, évidemment, on n'est pas entendu, on n'est pas vu. On devient un produit, ou un objet, on n'est pas du tout... Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils produisent, ils ne savent même pas ce que c'est le fruit de leur travail. Fillon, et moi j'étais outrée, il disait, oui, le problème c'est que les médecins ne sont pas assez payés en France. Le salaire des médecins, c'est pas assez. Ils sont sous-payés, ils travaillent trop, il n'y a pas assez, etc., etc. Il dit, c'est quand même pas normal quand un plombier gagne plus qu'un médecin. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas les plombiers qui gagnent beaucoup d'argent. C'est pas les plombiers. C'est pas ça. C'était incroyable qu'ils disent un truc comme ça. En tout cas, le mec qui gagne des fortunes immenses, c'est complètement disproportionné. Enfin, si on veut réduire les gens à vraiment reconnaître que quelqu'un fait avec sa vie, pourquoi quelqu'un doit payer beaucoup, tellement plus que quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est plus important ce que fait un chef d'entreprise que fait un plombier? Enfin, plus important dans le sens que l'importance dans notre société des marchands, c'est l'argent. Donc, lui, c'est plus important que lui. Enfin, tout ça pour dire que le fait d'être pas entendu et pas vu, c'est ça, exactement. Et il y avait quelqu'un qui disait... je ne me souviens plus où j'ai vu ça, qui disait ça. C'était intéressant. Il disait que l'élection de Trump, il avait l'impression que c'était... les États-Unis étaient en train de devenir Rome à la fin. La décadence. Que c'était le début de la fin. Et quelqu'un d'autre avait dit c'est comme Versailles. C'est-à-dire que tellement déconnecté du peuple. Et évidemment, en France, on sait ce qui se passe. Hein. En France, on coupe les têtes quand ça arrive. Fais attention là. Hein.
c'est pas loin de ce que les supporters de Trump, poussés par Trump, ce qu'ils réclamaient aussi. Je veux dire, c'est, j'ai revu là, j'ai vu passer sur Facebook une vidéo au moment de l'élection d'Obama avec des panneaux Obama hanging there, je sais plus quoi. Il y avait, c'était on va te mettre au poteau quoi. On va te pendre. Enfin, c'était des trucs d'une violence et ce qu'on a vu là et puis ce qu'on voit sur les sujets de l'avortement. Enfin, c'est vraiment unleashing. C'est vraiment cette impression de.
Oui, ce qui était dans cette cocotte minute. Je
toujours penser au truc de Marx qui dit la civilisation c'est protégé par un voile très fin. Ça se déchire très facilement.
Ouais.
Et là,
bah, Freud aussi, hein. Et...
Oui, j'avais également pensé à la Révolution française quand tu as dit on fait quelque chose mais on ne connaît pas trop les conséquences.
Ouais. C'est vraiment de ne pas être vu et entendu, ça pose des problèmes. Et on le sait nous-mêmes. Quand on voit des gens, des hommes d'État, puisqu'on parle de politique, quand on voit quelqu'un comme Mandela, par exemple, qui était dans l'écoute de ce qui est et dans le s'ouvrir à l'autre, on voit le résultat. On voit vraiment que c'est autre chose. Quand on s'ouvre à ce qui est l'autre, quand on écoute, qu'on trouve ce que c'est notre commun plutôt que de trouver ce qui nous séparait. C'est vraiment les trois poisons hein, qu'on appelle ça en bouddhisme. The greed, anger and ignorance. Comment dire en français, l'avidité, la colère, l'ignorance. Ouais. Mais quand on n'est pas focalisé, quand notre attention est attirée par moi-je et différence, les séparations, plutôt que vers l'unité et ce pas en arrière, le résultat naturel, c'est l'avidité, la colère et l'ignorance. C'est naturel, c'est ce qui suit. Et quand on prend ce pas en arrière et on n'est pas focalisé sur moi-je, les séparations, les différences, il y a d'autres choses qui suivent, naturellement. C'est pas sorcier, c'est pas un miracle. Quelle heure est-il ? J'ai l'impression qu'on avait parlé
moins 10.
Très longtemps. Ok, on va s'arrêter là.